Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et voilà, en ce beau mois de mars 2024, nous allons fêter l'arrivée du 12e album de Murena avec son scénariste Jean Dufaux, que je salue tout de suite. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Martine.
Alors, bien sûr que ça, c'est un sacré événement, d'autant que nous l'attendions, ce Murena nouveau. Et on aura plein de choses à dire, d'autant que c'est bizarre de commencer à dire des choses qui sembleraient clore le sujet, d'autant qu'il s'agit de l'album qui clôt justement un cycle. Et j'aurais envie, pour commencer, de lire une page qui m'a beaucoup émue. Toutes m'ont plu, mais la dernière, celle signée Jean Dufaux aussi, où il parle à la première personne. C'est comme une voix off que vous allez entendre. Je ne saurais la remplacer, mais je lis. À présent, c'est Jean Dufaux qui parle et qui écrit. Il me reste à entamer le dernier cycle. Une surprise attendra les lecteurs. Une boucle dans le temps comme un écho des vieilles complicités de celles qui parviennent parfois à survivre. Si j'arrive à terminer l'ensemble et je m'y emploie en ce moment, alors oui, le temps sera venu de remercier bien des personnes, dont mes éditeurs, qui m'ont permis de tenir, de respecter ce qui fut au départ un projet de copain, assis une table de restaurant, italien of course, au passé des champs napolitains et quelques flacons qui aidaient à l'entreprise. Mon cher Philippe, j'espère que l'ensemble ne te décevra pas trop, Jean Dufaux. J'ai trouvé très très émouvant ces mots, qui était à la fois la manière de clore un cycle, certes, d'en annoncer un autre, mais de placer sous la protection, quelque part aussi, d'un dessinateur qui nous manque encore, Delaby, Philippe Delaby.
Oui, absolument.
Et je pense qu'effectivement, comme tu le sous-entends, il serait assez fier de la manière dont vous avez Théo, le nouveau dessinateur depuis le tome 10, et toi-même depuis le début des débuts, comment vous avez entrepris cette belle œuvre, entrepris de la continuer, de la mener jusqu'au bout. Et moi, je promets qu'après, je me tairai, que ce sera Jean qu'on entendra.
Je vous en prie, Martine.
Mais j'ai dans le cœur et dans l'esprit la première rencontre avec Jean Dufaux, justement. C'était à Nîmes, où il nous avait fait le grand honneur de venir au Forum du Livre Péplum et de présenter en avant-première le tome 9. À l'époque, on ne savait évidemment pas qu'on parlait de Philippe Delaby. On ne pensait pas qu'il allait disparaître aussi vite et nous manquer autant après. On ne savait pas tout ça, mais en revanche, Jean savait déjà où il allait, puisque moi, c'était pour moi une découverte incroyable. Il nous a expliqué, lors du forum du livre Péplum, comment depuis le début, tout était, j'allais dire dessiné, c'est peut-être pas le mot, mais tout était prévu du tome 1 au tome 16, qui sera donc le dernier, n'est-ce pas Jean ?
Oui, en fait, c'est un petit peu la dualité qu'avait Dumas avec Auguste Maquet, par exemple. C'est-à-dire que Maquet faisait les plans, il fallait se tenir aux plans, mais la plume de Dumas filait et bougeait et changeait certaines choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai rencontré Philippe, quand nous avons commencé Murena, alors que le peplum n'était plus du tout à l'honneur après Jacques Martin, ça je m'en souviens très bien aussi, et d'ailleurs il faut rappeler que les deux premiers volumes de Murena n'ont pas fonctionné, n'ont pas trouvé un grand public, il a fallu attendre le tome 3, je lui avais indiqué où je voulais aller, parce que cela rassurait effectivement le dessinateur. Entre-temps, effectivement, moi mon travail c'est de dresser la maison, de dresser les pilotis, les murs, le toit, de faire en sorte que ça fonctionne et que ça tienne le coup par-delà les années, même si ça dure 10, 15, 20 ans. Mais à l'intérieur de la maison, ça peut bouger. C'est-à-dire que des personnages non prévus au départ peuvent intervenir, des développements peuvent effectivement prendre plus de place, etc., etc. Mais la fin reste la fin, le milieu, le début. Ça, c'est clair. Et pour Murena, il y a des éléments nouveaux qui font que finalement, il y a trois premiers cycles de quatre volumes, le troisième cycle qui s'achève ici, qui s'appellerait pour moi le cycle des complots. Et puis il y aura un dernier cycle, ça oui, de par là, je suis de toute façon obligé de conclure maintenant, il ne faut pas exagérer, mais il ne comportera pas 4 volumes, mais 6 volumes.
Ah, voilà. Donc, d'accord.
Ce sera au tome 18 que tout cela trouvera sa fin.
Ah, bon, bah alors là, c'est une belle nouvelle, une belle surprise. Et alors, est-ce qu'on sait le titre qui fera le chapeau de ces 6 volumes ?
Non, pas encore. Donc, j'y vais par volume. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire les volumes de par mon âge en avance. Donc, j'ai déjà écrit 2 Murella qui suivent. Je suis sur le 3e actuellement et je poursuis. Voilà. Comme ça, le dessinateur, qui est bien plus jeune que moi, aura matière à poursuivre, même si je ne suis plus là.
Oh, ben, ne parlons pas de malheur. Non, non, nous vous gardons.
Non, c'est un malheur qui nous arrive à tous, de toute façon. C'est pas un malheur pour moi, d'ailleurs. C'est un cycle à finir. Et je ne considère pas la mort comme un malheur.
Mais est-ce qu'on entendrait la parole d'un sage, puisque le Murena numéro 12 s'appelle « Mort d'un sage », est-ce que l'influence de Sénèque y est pour quelque chose ?
Dans « Mort d'un sage », il y a « mort » également. Donc, effectivement, je reste logique avec moi-même. Non, mais je pense effectivement que je reste effectivement un défenseur acharné de cette vieille philosophie romaine, latine, de cette langue, de cette sagesse, des différentes variantes de cette sagesse, cette ouverture de sagesse, de la mythologie qui nous apprend énormément de choses sur notre présent. Ça, c'est très clair. Le passé m'a toujours éclairé sur le présent. Et je considère qu'il n'y a pas que l'histoire, qu'il n'y a pas que l'histoire racontée, mais une véritable sagesse aussi qui nous vient de cette histoire et de ce passé. Un passé qui ne correspond pas du tout au temps que nous occupons actuellement. C'est un autre monde.
Et en effet, c'est un autre monde, mais qui doit nous faire réfléchir sur celui d'aujourd'hui. Et,
absolument.
Qu'il prolonge. Et,
absolument.
Voilà, absolument.
Absolument. Je trouve que si on peut avoir une lecture de Murena par rapport au passé, et on peut très bien voir aussi, je dirais, les temps présents dans Murena, ce qu'il y a de présent, et ça c'est important pour moi.
Alors en 24 ans, hein, parce que donc, l'aventure, le premier tome je pense est sorti en mars 2010, à un moment où, comme vous le disiez, le péplum était passé complètement de mode, hein, que ce
Absolument.
Soit en littérature ou au cinéma, entre réalisme, entre souci d'être fidèle à l'histoire et le goût des histoires, eh bien on est entraîné avec ces personnages et pendant ces 24 ans pour l'instant, où nous avons suivi tout ça, on ne s'est jamais ennuyé, on a toujours été surpris, et c'est le cas avec ce tome 12 dont j'aimerais que l'on parle. Mais donc on va rappeler, le cycle 1, c'était, alors je peux me tromper parce que parfois les titres changent, hein, le cycle de la mer, hein, c'est ça ?
Oui, c'est juste. Hein.
Et le cycle 2, donc la mer bien sûr c'était Agrippine, on rappelle que l'album et la saga s'appellent Murena, mais derrière il y a toujours Néron.
Absolument.
Le cycle 2, c'est le cycle de l'épouse, avec oui. Effectivement Poppée qui prend toute la place, y compris celle d'Actée, qu'on a vu apparaître au début, dans le cœur
oui.
de Néron.
Oui.
Et le cycle 3, donc je pensais qu'il s'appelait celui de la mort, mais vous venez de dire que c'est le cycle des complots.
C'est cela. Le cycle de la mort sera effectivement forcément le dernier cycle. Donc ça me semble assez logique. Par contre, vous me clouez quand vous me rappelez qu'il y a tant d'années que nous avons
oui,
commencé.
Mais j'avoue que moi aussi, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, mais non, j'ai dû me tromper.
Mon Dieu.
Alors donc, nous avions dans le tome précédent, nous avions laissé Murena aux mains. Là, il avait du mal à s'en sortir d'un personnage féminin qui va être un personnage aussi récurrent de cet album qui
oui.
sort aujourd'hui. Elle revient, donc Lemuria.
Oui, c'est un personnage qui effectivement... En fait, ce qui se passe et qu'il faut comprendre, c'est que Murena appartient aussi à une vie privée et affective. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je parviens à construire toujours cette histoire, à tenir énormément à cette histoire et à pouvoir la raconter. Il y a beaucoup d'éléments, je dirais, qui tiennent à Philippe de Laby dans le cycle de Laby. Il est dans Murena. Ses sentiments, ses fragilités se trouvent dans le personnage de Lucius Murena. Quand j'ai rencontré Théo, c'est très important pour moi d'écouter toujours l'auteur avec qui je vais travailler. Ça peut être un auteur, ça peut être un acteur, ça peut être un metteur en scène, ça peut être un compositeur. Bref, la personne avec qui vous collaborez. Donc j'ai d'abord pris le temps d'écouter attentivement Théo. pour ne pas lui donner, je dirais, un travail de commande, mais un travail où il peut s'investir profondément. Et je pense que Lemuria est un personnage que j'avais entrevu, mais que je n'avais pas fixé, et que j'ai réussi à le fixer, ou que j'ai pu le fixer grâce à Théo. Lemuria appartient au monde de Théo, appartient au monde privé de Théo. Et je pense que tous les Murénas, dans tous les Murénas, il y a la part affective, émotive de tous les auteurs. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a peut-être, j'espère, une vibration dans les Murénas.
Et c'est vrai que ce personnage, et on sait que lorsqu'il a dessiné Lemuria, Théo, effectivement, a dessiné aussi quelqu'un qui lui est cher. Donc,
mais vous révélez des choses, cher Martin.
Je crois savoir. Et effectivement, du coup, c'est peut-être ça qui lui donne cette vie étonnante, et y compris dans cet album. Où elle revient. Alors, il y a tout un. On parlait de la fin d'un cycle, mais dans cet album-là, il y a beaucoup de choses aussi qui sont cycliques. L'album s'ouvre avec des personnages qu'on retrouve à la fin, des personnages mineurs, mais oui. Qui ont quand même leur importance, oui. Comme le besogneux dont on parlera peut-être, Févaud. Et puis, l'allusion, effectivement, au rôle de Lemuria, qui avait retenu Myrena et en même temps qu'il l'avait sauvée, lorsqu'il était loin de Rome, à Baï. Et puis. À la fin, alors évidemment, il n'est pas question de raconter l'histoire, hein, ce serait trop dommage, mais à la fin, eh bien, notre personnage, Murena, s'en va à nouveau, on ne sait pas où, hein, on ne sait pas où il va partir, mais à nouveau, il va quitter Rome.
Oui, oui, effectivement, c'est le principe, de l'arc principal et des arcs secondaires. C'est peut-être ça aussi qui est le plus fatigant pour un auteur, en tout cas dans une série, parce que moi, je n'ai pas les collaborateurs de Dumas, je vais le faire seul, c'est de garder, je dirais, tous les tiroirs ouverts. Ne pas se tromper. Il y a 3-4 personnages principaux dans ce type de structure, et puis je pense qu'il y a une vingtaine, une trentaine de personnages secondaires qui ont leur vie, et qui doivent en fait intervenir au bon moment. Ce qui est très important dans le fait de raconter l'histoire, parce que nous sommes finalement des raconteurs d'histoire, c'est rythme, la rythmique. Et la rythmique s'appuie aussi sur l'apparition et la disparition des personnages. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au moment où vous créez un personnage qui ne prendra pas le devant de la scène, vous devez à peu près savoir quand il doit intervenir pour réagir sur les ressorts de l'histoire. Voilà, ça c'est effectivement, je dirais, le tiroir qui doit rester ouvert dans votre tête. Et c'est probablement une des choses les plus fatigantes dans ce métier-là.
Alors, c'est la deuxième partie de cette émission consacrée à l'album 12 de la saga Murena. Et nous avons la grande chance d'avoir Jean Dufaux au bout du fil. Là-bas, dans sa Belgique, il nous parle de son travail, de son œuvre et de ce tome dont on était en train de dire qu'il avait un ressort à la fois dramatique et psychologique très fort grâce à ces tiroirs que vous ouvrez pour des personnages dont vous savez qu'ils ne disparaissent pas, ils vont revenir un de ces jours.
Oui, il y a un second ressort qui effectivement donnait un surplus de travail dans Murena, mais auquel je tenais énormément, c'est que nous racontons une version des faits qui n'est pas automatiquement historique, mais que dans les notes en fin de volume, j'aime, quand je peux le faire, rétablir cette version historique. Alors, ça aussi, c'est très important. La mort de Sénèque, par exemple, effectivement, en est un bon exemple.
Effectivement, il y a, et vous l'avez toujours dit ça, hein, il y a à la fois le respect de l'histoire et en même temps le droit, quand on écrit une fiction, eh bien, de détourner l'histoire et de la réécrire à sa façon. Effectivement, là aussi, nous n'allons surtout pas raconter les choses, mais Sénèque meurt, ça oui, la mort d'un sage, mais il ne meurt pas comme Tacite nous l'a appris, par exemple.
Voilà, justement.
Et dans cet album, il y a beaucoup de gens qui meurent, hein, il faut bien dire les choses. C'est dans l'époque de Néron, forcément. Nous sommes au moment où la conspiration de Pison va se découvrir et Néron sévire. Parfois, on le soupçonne de sévir volontairement à tort pour se débarrasser de personnes qu'il n'aime pas. Et donc, on va avoir beaucoup de gens qui disparaissent, y compris des gens que nous, on aime beaucoup, parce que vous avez à cœur d'ancrer Néron dans son environnement historique et dans son environnement littéraire. C'est ainsi que, bien sûr, il y a Sénèque, mais on va voir Lucain. On va voir Pétrone, qu'on connaît déjà et qu'on aime énormément. Et moi, dans Pétrone, je vous retrouve parfois, Jean Dufaux, avec les réflexions sur l'écriture d'un certain volume. Enfin, je crois, vous le trouvez. Et puis, bien sûr, vous savez que vous avez vraiment... vous m'avez fait grand plaisir en mettant en scène Martial, un poète qui n'a pas trop d'importance pour Néron, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il l'a connu, mais... Vous avez à cœur de montrer que lorsque Martial arrive de son Espagne, de son Hispanie natale, il vient à Rome au moment de Néron. Donc vous l'avez dessiné et on le voit comme c'est tout à fait, non pas vrai, mais plausible. On le voit qu'il discute avec des gens avec qui il partage beaucoup de choses.
Oh, pour paraphraser un vieil écrivain... rien n'est juste, tout est faux, l'inverse. Voilà. Donc c'est très important. C'est curieux pour moi que l'on parle de ça, parce que ce matin même, je viens de conclure la mort de Pétrone dans un volume suivant, et que ce fut une grande émotion. Et je conseille à tous les amis qui aiment la littérature, qui aiment l'imaginaire, de lire la très belle lettre qu'avait écrit Dumas à son éditeur quand il a tué Porthos.
Oui.
Elle résume énormément de choses sur l'acte d'écrire et de créer. C'est-à-dire qu'après nombre de volumes, une quinzaine de volumes, j'ai dû me séparer de Pétrone. Comme j'ai dû me séparer dans cet album-ci de Sénèque, mais pas tout à fait. Je n'avais pas envie de le quitter totalement. Et c'est pour ça que dans l'imaginaire qui s'accroche à Murena, il y a une descendance à Sénèque. Et ces descendances-là peuvent prendre sa place dans l'histoire.
Alors oui, c'est des moments très émouvants pour le lecteur. On y voit son neveu aussi, Lucain, dont on sait effectivement qu'il est mort à cause ou dans le contexte de cette conspiration.
Pison.
Oui, dans la conspiration de Pison. Donc cette conspiration qui visait, dit-on, à abattre Néron, à se débarrasser de ce qui avait l'air d'être un monstre en plein développement. Donc la littérature, elle a beaucoup de place. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi dans cet album énormément de scènes de groupe, et en particulier les scènes au théâtre, où on voit représenter Terence, et vous dites à juste titre que les Romains s'étaient passionnés pour délaissant un petit peu Plaute, qui a toujours du succès, mais on laisse la place à Terence. Et on voit Sénèque, alors ça je trouve ça très beau, qui figure parmi les spectateurs de cette pièce de théâtre, ainsi que tous nos chers personnages.
Oui, ça pouvait être possible, mais je crois que c'est parce que dans tout ce que j'ai écrit, il y a deux, trois idées essentielles pour moi, et qui est en fait l'importance de la culture. Non pas dans le sens pédagogique lourd, mais dans ce que la culture peut nous aider à vivre. Et je pense qu'il n'y a pas de culture morte. Je pense que si on a le plaisir et la chance de pouvoir lire Terence et Plaute dans un bon texte, ça peut nous apporter d'abord beaucoup de bonheur, son texte assez gai, vif, voilà. Mais nous dépendons de cette culture-là. Nous sommes tout de même les enfants de cette culture-là, et je pense que l'oublier est une erreur. Et donc c'était ça aussi un petit peu pourquoi on écrit, pourquoi j'écris parfois des livres sur des écrivains oubliés ou connus, ou sur Murena, où effectivement, cette histoire de Murena nous raconte toujours des choses essentielles pour moi, à savoir sur la politique, sur l'homme face au pouvoir, sur l'homme face à ses émotions, sur le sentiment de solitude par rapport à ce pouvoir, le sentiment de l'amitié de cette culture, parce qu'après tout, on voit aussi Pétrone écrire sur sa territoire, on n'est pas seul pour l'écrire, etc., etc. Je crois que des exemples multiples dans Murena,
oui.
Et c'est pour moi essentiel. C'est-à-dire que Murena, c'est tout de même une illustration pour moi d'une base essentielle de ma vie qui est, quand je vous parle, je regarde autour de moi, ma bibliothèque. C'est essentiel, une bibliothèque.
Alors,
c'est essentiel de savoir.
C'est curieux parce que quand je lisais cet album et qu'à plusieurs reprises, on voit la bibliothèque de Sénèque, je pensais à vous tous, les amoureux des livres et les amoureux de cette culture. Et je me disais qu'il y avait quelque chose là de très beau hein, dans la manière de dessiner, de représenter ces bibliothèques.
Oui, je ne sais plus quel auteur, parce que je vieillis et donc je commence à avoir une mémoire qui flotte, mais je sais qu'il y a un très grand auteur qui a dit « Un homme ne peut être heureux qu'un homme peut être heureux s'il a une bibliothèque et un jardin ». Et ma foi, c'est pas si mal.
Et c'est vrai que nous qui avons connu un confinement il n'y a pas si longtemps, eh bien, on était bien heureux quand on avait les deux, quoi. Voilà.
Il faut les deux, voilà, absolument.
Et oui, donc des scènes de groupe assez extraordinaires que j'ai beaucoup, beaucoup appréciées. Alors, à propos de ces réalias, de ces scènes au bordel, il y a des personnages qui incarnent dans un album où je trouve que le manichéisme est complètement absent, sauf dans quelques personnages que sont cet affreux Tigelin, le Besogneux et le Févaud, lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, entame l'album et le termine. Et là, on a la note noire, hein, vraiment très noire.
Je crois, de toute façon, c'est une des premières choses que j'ai apprises quand je voulais raconter des histoires, parce que je me suis intéressé à la technique, qu'une bonne histoire demande un bon méchant. Ça, c'est très clair. Et Walt Disney l'a très bien montré quand je voyais des mômes, les dessins animés qui me plaisaient le plus de chez Disney, c'est où le méchant avait une part capitale profonde et pouvait envahir mes nuits et mes cauchemars. Donc, je pense que Tigelin, c'est le fameux Arbacès. Hein, moi, j'ai toujours regretté la mort d'Arbacès dans Alix, par exemple. Voilà. Je trouvais qu'il faisait un contrepoids extraordinaire et que ce personnage prenait une place très intéressante dans la saga. Tigelin, de toute façon, est historique et survit à beaucoup de choses avec le pouvoir. Et c'est effectivement quelqu'un... On me disait d'ailleurs, c'est pas possible, il est toujours là, il prend des risques, et finalement, il n'est pas inquiété.
Oui, c'est vrai.
Je crois que c'est l'homme, il y a ça dans tout pouvoir politique et dans tous les siècles, il y a toujours un homme qui parvient à cette tolérance, c'est plein de monde, plein de gens par rapport à l'histoire, qui parviennent à jouer avec l'histoire, à se reculer, à s'avancer au bon moment. Ils ont en fait le bon timing. Tigelin a le bon timing. Je crois que c'est ça par rapport au pouvoir.
Oui, puis alors, il nous fait vraiment peur parce que sa détermination à éliminer Murena est terrible. Et en même temps, chaque fois, on croit qu'il a échoué et lui-même s'étonne de voir que Murena est toujours là. Hein. Et il en a toujours après lui.
Il s'étonne lui-même, de fait. Ça, j'aimais bien. Mais je pense que tout pouvoir, comme ce Néron, est mortifère. Et pouvoir survivre dans un univers mortifère comme celui-là, il faut beaucoup de talent. Et le talent de Tigelin est très simple, c'est d'isoler le pouvoir, c'est d'isoler Néron, que Néron puisse dépendre de lui et de lui seul. Il y parvient tout doucement d'ailleurs, il y parvient tout doucement. Et on le verra dans les volumes suivants, Néron sera de plus en plus isolé.
Alors justement, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur Néron, qui me semble... différent et en même temps complètement double dans cet album, c'est-à-dire à la fois on le trouve, enfin je le trouve, hein, c'est complètement subjectif, presque plus humain et tellement ami de Murena, il n'arrive pas à croire que Murena puisse le trahir et cette amitié elle subsiste malgré tout, hein, et on le voit du début à la fin, et en même temps eh ben, il tue sans vergogne, quoi, sans problème.
Oui, mais je crois que c'est la nature humaine. Je crois aussi que je sais que j'ai posé des problèmes à, je dirais, à un certain lectorat ou à une façon de lire la bande dessinée. C'est que quand je suis arrivé, les méchants étaient méchants, les bons étaient les bons. Et le principe, Black et Mortimer, eh bien, Black et Mortimer, ils doivent détruire Ulric, point c'est tout, ils doivent combattre Ulric, etc., etc. Je suis incapable d'imaginer une personne mauvaise à 100% ou bonne à 100%. J'en suis incapable. Je crois que nous dépendons de Dieu et du diable. Et tous, les saints comme les maudits. Et cela dépend des circonstances, cela dépend du temps, cela dépend des gens avec qui nous vivons, mais nous avons vraiment en nous l'enfer et le paradis, ça j'en suis persuadé. Et donc, mes personnages ont toujours dû combattre non seulement l'adversaire, la personne qui se dresse devant eux, mais également ce que eux ont de mal. Ce que eux ont de déviance ou de trouble ou de fragilité, de perte. Et c'est moins facile à comprendre parce qu'il faut des nuances. Est-ce qu'on peut mettre des nuances en bande dessinée? C'est aussi une grande question que je me suis posée en commençant ce métier. Est-ce que la bande dessinée, à mon époque, était une, à l'époque de 13, à l'époque de l'Argovige, à l'époque de Torgal, était une bande dessinée de nuances? Est-ce qu'on pouvait nuancer un personnage? Est-ce qu'un héros pouvait faillir? J'étais un grand lecteur de Lord Jim, par exemple, Joseph Conrad, la lâcheté de Lord Jim, le rachat de Lord Jim, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait été mieux que Lord Jim au moment où son navire sombrait et tout? Ce sont des questions qui m'ont toujours obsédé. Et je ne peux répondre qu'en étant sincère envers moi-même. Néron, c'est quelqu'un qui participe de l'ombre et de la lumière, qui se cache un œil, pas l'autre, qui voit des flammes dans ses yeux, qui en même temps voit la bonté et l'amitié. Le problème, c'est qu'il appartient à un système, et que ce système-là le pousse dans une direction, et qu'il ne résistera pas à ce système.
Oui, puis dans ce système, il y a eu aussi, on l'a un peu oublié dans cet album-là, heureusement, on s'en détache, mais la figure terrible de sa mère Agrippine, qu'il a quand même façonnée.
Absolument, on reviendra d'ailleurs, puisque la fin est prévue, la fin on la connaît, la fin dramatique de Néron. Je rappelle souvent, avec un peu d'émotion tout de même, que c'est une semaine avant la mort de Philippe de Laby, je lui avais raconté le dernier volume, la fin. Oui. Comment Néron allait mourir, quoi. Et il en était content. Il en était content. Lorena, c'était son enfant aussi. La vie a fait que, et puis, etc. etc. On ne va pas revenir là-dessus.
Et alors, à côté de lui, il y a une figure féminine. On va peut-être terminer en parlant des femmes qui sont importantes dans cet album. Alors, on ne voit pas Néron avoir de relations amoureuses cette fois-ci. Hein. Ce n'est pas ce type de relation qu'on va trouver. Mais il va connaître un personnage qui va devenir comme son double, la fameuse Hydre.
Oui, absolument. C'est ça qui est très intéressant, je ne le citerai pas, mais ce qui a aidé Murena, ce qui m'a aidé dans mon travail, c'est effectivement d'écouter des historiens, d'écouter des gens qui connaissaient cette période beaucoup mieux que moi, parce qu'on part parfois sur des clichés qui sont là parce qu'il y a une tradition hollywoodienne, parce qu'il y a des textes qui les font, et c'était donc Néron et Poppée, et Néron finalement un monstre envers son épouse, envers Poppée, la mort de Poppée, un coup dans le ventre, etc., etc. Un de ces historiens, M. Aziza, m'a fait remarquer à l'époque, non, ils se sont aimés. Il y a là un prisme différent, oui. Un point de vue différent. Il faut faire attention. Et là, du coup, j'ai relu mes textes, j'écoutais ça, et effectivement, j'ai infléchi l'histoire dans une relation vraiment conjugale entre Poppée et Néron. Malheureusement, elle finit mal, et donc je me suis retrouvé à un moment donné, mais comment ça ne va pas pire entre ces deux-là? Voilà. Est-ce que je suis la tradition? Est-ce que je trouve autre chose? Etc., etc. Est-ce que c'est Néron qui a tué Poppée? Ou c'est Néron n'a pas tué Poppée? Et si Néron n'a pas tué Poppée, comme la tradition veut qu'il l'ait fait, il faudra que je mette les deux versions. Et voilà presque tout le travail de Murena, album par album.
Et donc, vont jaillir petit à petit, s'imposer pour combler les creux, entre guillemets, d'autres personnages. Donc, cette femme étrange, cette hydre, avec laquelle il va se battre au début de l'album. Hein. On le voit.
Oui, absolument.
On le voit dans la lutte, vraiment.
Oui, mais là encore, il y a cette ambivalence de ce que... Ce fut un de mes premiers cours, c'est curieux, de psychanalyse de l'art par M. Henri Van Leer, qui est un professeur que j'ai aimé, que j'ai adoré, qui était, attraction-répulsion. On avait d'ailleurs commencé par le fameux tableau de Marilyn Monroe, par Warhol. Attraction-répulsion, c'est-à-dire qu'entre l'hydre et Murena, il y aura une attraction et une répulsion, avant de se rendre compte des liens familiaux qui les régissent, et puis finalement, quelque part, ça va se mettre en place. Et au départ, effectivement, on peut se combattre, et puis finalement, après, on peut se désirer. Il y a les deux dans l'album.
On attend avec impatience de savoir ce que ça deviendra, parce que c'est évident qu'on est à la fin d'un cycle, et beaucoup de choses nous le disent, parce que vous avez l'habileté de faire des petits clins d'œil. On évoque la pourpre et l'or, le sable et le sang, la meilleure des mers, les épines. Oui. Tout ça renvoie aux albums précédents et tout lecteur ne peut pas passer à côté de ces petits clins d'œil qui disent que quelque chose s'enroule pour se fermer et quelque chose va se dérouler.
Mais c'est, ma foi, très bien résumé, l'ensemble.
Écoutez, nous attendons, alors je ne peux pas le dire avec impatience, parce que quand même, le 1er mars, le tome 12 est sorti, donc il faut être un peu patient. Mais sachant que vous avez déjà beaucoup avancé, on est très curieux de connaître la suite. Merci beaucoup, Jean Dufaux.
À vous, Martine. Moi, je vous remercie de votre lecture et de votre patience. Voilà.
À bientôt.
Bien à vous. À très vite.
Au revoir.